Bonjour, donc rebonjour Nicolas. Je me permettais un bref coup de fil. Vous avez 5 minutes?
Oui, non, oui.
Voilà, que je vous dérange pas en pleine réunion au moins. Je vous disais, donc je reprends brièvement, je réalise un dossier actuellement pour 3 webzines sur les petits candidats, sur les candidats qu'on voit pas forcément dans les médias. Vous me confirmez, vous êtes candidat à la présidentielle?
Oui, je l'ai fait, c'est officiel depuis ce matin, oui.
Tout à fait, j'ai reçu le communiqué également. C'est un dossier qu'on va publier lundi, notamment sur Newsblog.
J'ai toujours tout réussi au deuxième coup. C'est-à-dire que le bac, Sciences Po et la présidence de la République, ça va le faire.
Est-ce que vous
appelez petit candidat parce que vous oubliez que M. Nicolas Sarkozy a fait 13% des voix après avoir fait 30% dans les sondages aux élections européennes de 1999. J'ai vécu cette élection, je faisais 2% des suffrages, enfin un peu moins de 2%. C'est-à-dire que Mme Ségolène Royal est aujourd'hui portée par les sondages, comme M. Delors, comme M. Jospin et comme d'autres choses. Je ne lui souhaite pas le score de M. Jospin, mais enfin, ceci dit, M. Delors, lui, n'était pas du tout candidat.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous acceptez que j'enregistre notre conversation, ce qui me permet dans ce
cas-là... Oui, mais à ce moment-là, il vaudrait mieux que vous appeliez sur un fixe, vous entendrez mieux.
Je vous entends très bien.
Oh bon,
il n'y a aucun souci. Si j'ai votre feu vert, ça me permet de podcaster des éléments de cette discussion et de l'intégrer à une interview que je souhaiterais réaliser. C'est l'objet de cet appel.
Il n'y a pas de problème.
Très bien. J'ai eu donc dans le cadre de ce dossier deux candidats, on va dire citoyens de la société civile, en l'occurrence Alain Mourgui et Rachid Nekaz, que je viens d'interviewer. Je souhaitais savoir si vous auriez 10-15 minutes à me consacrer pour une interview sur votre programme justement et cette candidature.
Moi, je ne fais pas de commentaires sur les autres candidatures.
Ah non, pas sur les autres, c'était sur la vôtre, c'était en savoir un petit peu plus, essayer de vous présenter.
Je dis simplement que aujourd'hui, je me marre beaucoup quand je vois qu'il y a des gens que vous mettez sur le même métal, alors que ce sont des gens qui n'ont absolument jamais rien fait donc dans leur politique, donc dans leur vie. Je vous avais pu voir communiquer, c'est-à-dire que la dernière élection présidentielle, j'avais plusieurs centaines de parrainages de maires. Certains considèrent aujourd'hui que la candidature, c'est exclusivement une tribune médiatique pour pouvoir se faire entendre et faire entendre des idées plus ou moins bizarres.
Alors c'est l'objet justement de ce dossier, c'est savoir si c'est pas le risque d'une dispersion des voix ou en tout cas si c'est pas une Monsieur, façon comme une autre de galvauder
la fonction présidentielle. Il n'y a pas une question de risque de dispersion des voix, bien qu'il y a la société civile qui s'organise, qui progressivement, autour d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement des contribuables français, et qui depuis donc maintenant quelques années n'a fait que des progrès. Je permets de vous signaler qu'on était aux élections européennes de 1999 à 1,76% des voix ou 1,78%, j'ai plus la mémoire exacte, qu'aux élections régionales là où nous avons présenté des listes, on était à 3,5% des voix. Et je pense qu'à l'élection présidentielle de 2002, là où j'avais eu insuffisamment de signatures, mais quand même le potentiellement 17e candidat, on s'apercevra en 2007 que c'est nous qui allons faire la grande surprise du scrutin.
D'accord, alors,
je ne suis pas pour avoir une tribune dans les médias que de toute façon nous n'aurons pas, mais tout simplement pour faire en sorte...
Ça reste un point de vue, savoir si le web est considéré comme un média à part entière, en tout cas on n'est pas régi par des temps de parole par le CSA. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est une audience et c'est cette occasion que je souhaite donner à ces candidats de s'exprimer directement, donc je suis ravi de vous avoir en ligne et pouvoir vous interroger là-dessus. D'ores et déjà une question, puisque c'est un pic qui m'a été lancé offline pour le coup par, je crois, Alain Mourgui. Je lui demandais, est-ce que vous savez qui est Catherine de Médicis, puisqu'il a été, on a dit à un moment donné que c'était lui, et qui me dit, c'est pas quand même impossible que ce soit Nicolas Miguet. Alors je vous pose tout de suite cette question, et puis on parle programme, on parle politique après. Est-ce que vous êtes Catherine de Médicis?
Lorsque j'écris, je n'ai pas besoin de pseudonyme. Donc Catherine de Médicis est une personne qui appartient à l'histoire de France. Je m'inscris dans la ligne de l'histoire de France.
Et Catherine Médicis d'ailleurs, et pas de Médicis.
Catherine de Médicis appartient à l'histoire de France, et en ce qui me concerne, je m'inscris dans la suite et dans la ligne de l'histoire de notre beau pays. Ceci dit, si j'avais écrit un livre, je l'aurais signé Nicolas Miguet, mais pas Catherine Médicis.
Donc vous le certifiez aujourd'hui, c'est pas un mensonge.
Je permets de vous signaler que dans ce genre donc, de propos, il y avait exclusivement des gens qui prétendaient se présenter au mois de janvier ou au mois de février, quoi.
D'accord. Non, mais la question, comme elle a été ouvertement posée, je me permettais de vous la transmettre et j'enregistre bien votre réponse. On parlait tout à l'heure justement de dispersion des voix ou de personnalités qui se présentent peut-être plus pour des raisons d'ego. Vous parliez de tribune pour faire passer des idées en particulier. Aujourd'hui, c'est jugé un peu farfelu, ça décrédibilise peut-être la fonction présidentielle, c'est en tout cas ce qu'on entend.
Je considère que c'est malheureux parce que vous avez donc des gens qui utilisent leur fonction passée. Je pense par exemple en 2002 à l'ancien président d'Air France, M. Christian Blanc, qui ensuite s'est vendu pour donc trois queues de cerises. Donc pour avoir donc un poste de député, qui ne recherche même pas les parrainages de maire. Il a eu deux parrainages de maire, c'est tout. Deux parrainages de maire, c'est prouvé. Et qui ne cherche même pas à faire une vraie démarche de candidature. Je me permets de vous rappeler que la dernière fois, je veux dire qu'on avait deux fois et demi, presque trois fois, le nombre de parrainages précédents dans le précédent système.
Mais d'ailleurs, à ce titre-là, je ne considère pas Christian Blanc comme un petit candidat pour le qualificatif qui a été employé pour l'ensemble de ces candidats que je souhaite interroger aujourd'hui, dans la mesure où c'était une personnalité connue.
Un petit candidat parti politique qui fait 3,5% des voix. J'aime bien que le mot petit, donc Mme Taubira, à ce moment-là, est plus petite que nous, et dire que M. Besancenot également.
D'accord, mais c'est voilà, c'était pas un regard quantitatif, mais vous faites bien de remettre ça dans son contexte. On a aujourd'hui
faut pas confondre. Il y a une tendance pour l'énarchie à vouloir décrédibiliser le débat d'idées. Donc c'est extrêmement simple. Vous avez les candidats du système, ils sont assez nombreux. Ils sont donc les candidats de l'UMP, du PS et autre chose. Et croyez-moi, ils pensent que l'assiette au beurre est très très largement garnie puisqu'ils sont nombreux pour se disputer donc les investitures du PS, notamment. Et puis vous avez, et qui sont démagos au possible, puisque donc l'application du programme du Parti Socialiste, c'est 300 milliards d'euros de déficit à la place de 57,5 milliards d'euros pour les déficits français, en public français, c'est-à-dire sociaux et autres, s'il était appliqué. Et puis donc de l'autre côté, vous avez donc les faire-valoir de l'énarchie, c'est-à-dire les partis extrémistes, de gauche comme de droite, qui sont utilisés parce qu'ils servent de repoussoir, sous-entendu, c'est soit nous, soit eux. Et puis vous avez, les dissidents du système, et notamment nous l'organisons cette dissidence, qui exactement comme dans la révolution orange en Ukraine, ou comme dans les pays de l'Est, obtiendront le pouvoir par la voie démocratique et des urnes, par une sensibilisation des gens, et justement en partie par le réseau donc, de l'Internet, parce que c'est des propositions fortes de bon sens et qui sont partagées par les gens, et pas du tout démagogiques.
D'accord. La question est très claire, très simple. Vous confirmez donc, vous irez jusqu'au bout. Vous êtes aujourd'hui quasi certain d'avoir vos signatures et vous serez au premier tour.
D'abord, je ne suis pas quasi certain d'avoir des signatures puisque les formulaires officiels, monsieur, ne seront imprimés qu'au mois de janvier et disponibles dans les mairies auprès des maires qu'au mois de février de l'année 2000.
Et c'est le Conseil constitutionnel qui les recevra et pas vous directement.
Exactement. Donc, soyons très clairs là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des farfelus qui le disent. Je dis simplement que j'ai d'abord interrogé, avant de me lancer, tous les maires qui avaient confirmé par leur parrainage en 2002, et ils m'ont tous dit qu'ils me parraineraient de nouveau, c'est-à-dire qu'en 2007. Donc ça fait une base. Deuxième chose, ils ont tous, et on a donc un certain nombre de maires qui nous ont rejoints depuis. Et que par ailleurs, nos amis maires ont aussi des amis maires qui partagent mes idées et me connaissent désormais. Donc je pense que nous avons une... Nous ferons la plus grosse des surprises le jour où nous déposerons largement au-dessus, je pense, des 500 parrainages. Mais de toute façon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et là-dessus, je veux dire que je suis confiant, mais combattant.
D'accord. On va prendre quelques minutes pour parler de votre programme, le présenter, donner un petit peu plus d'éléments sur le fond. Donc, déjà sur l'intention, pourquoi vous présentez-vous, dans quel but directement, qu'est-ce que vous apporteriez que n'apporterait pas un autre candidat?
C'est très simple, c'est complètement différent. Nous sommes la société civile qui n'existe pas du tout en politique. Ce sont des gens qui ont aujourd'hui confisqué le pouvoir et on gère le pays à volo, puisque depuis 32 ans, l'ensemble des partis au pouvoir ne font que des budgets en déficit, c'est-à-dire dépensent plus d'argent et ils laissent à nos enfants et nos petits-enfants un héritage maudit.
Alors, sur le constat, je crois qu'il y a une unanimité.
Rejeter et qui, en plus, donc, vont faire en sorte que la sécurité sociale, les retraites, tout ça, ça va tomber parce que nos enfants rejetteront l'héritage.
Alors, surtout, pour qu'on ne perde pas tous les auditeurs, on va essayer de tenir quand même dans une vingtaine de minutes, grand maximum. Et j'ai plein de questions sur le programme, justement, à vous poser. Donc, non pas sur le constat, puisqu'on est à peu près d'accord, en tout cas, là-dessus.
Certains donc, du Parti Socialiste ou à l'UMP ont des propositions tellement démagogiques qu'elles sont inapplicables au plan financier.
Et on va y venir. Mais en quoi Nicolas Miguet serait la personnalité représentative de la société civile? Pourquoi pas un autre des candidats? Pourquoi vous en particulier?
Tout simplement parce que depuis toute mon existence, j'ai certes fait de la politique au plan local, j'ai eu deux mandats d'élu local. Et deuxième chose, je suis un entrepreneur qui a créé son propre journal, qui a une réussite dans ce domaine-là, après une période d'échec d'ailleurs, et donc qui m'a permis donc de m'instruire. Et que quand il faut conduire la guerre économique, il faut un spécialiste de la guerre économique. Vous savez, quand il y a eu la défaite en 1940, on était obligé donc d'appeler donc le spécialiste, celui qui avait prévu donc la défaite et qui avait préconisé les solutions pour le faire.
Et vous considérez être aujourd'hui le spécialiste, la bonne personne?
Mais je veux dire que c'est non seulement évident, mais je veux dire que relisez les collections de ce que je pouvais écrire dans mes livres ou dans mes journaux, donc il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'étais le seul à prêcher dans le désert, à dénoncer l'explosion de la dette publique, des déficits, du report sur les générations ultérieures, etc., etc.
C'est pas totalement surréaliste de dire aujourd'hui c'est moi, c'est de placer l'ego au-delà de la fonction.
Ce n'est pas surréaliste parce que je permets quand même de vous rappeler que j'ai repris et redressé le quotidien de Paris après que M. Philippe Tesson ait fait faillite, que j'ai une entreprise qui est cotée en bourse et qui est prospère.
La France se dirige pas forcément comme une entreprise.
Et que cette expérience donc, que je puis avoir... C'est-à-dire que peut permettre donc de pouvoir juger par mes écrits, puisque ma profession c'est d'écrire. C'est-à-dire que si j'étais juste dans mes analyses, c'est-à-dire quand on est juste dans ses analyses, on peut avoir donc parler la vérité donc aux Français et bien entendu proposer des solutions qui sont justes aussi.
D'accord. On va essayer de faire un ping-pong assez rapide sur une dizaine de questions, une dizaine de thématiques pour avoir des idées claires sur votre projet, votre programme. Sur l'emploi, c'est la première préoccupation des Français. Concernant le chômage, quelle solution, quel programme?
Soyons très clairs, chez nous, il y aura emploi subi, emploi choisi. L'emploi subi, c'est-à-dire qu'il n'est plus question donc, de distribuer aujourd'hui donc, une aide style RMI sans qu'il y ait une obligation de travail d'intérêt collectif, c'est-à-dire que, qui sera donc, à la charge des collectivités locales pour distribuer donc, le travail, exactement comme c'était dans le programme initial de M. Rocard pour la mise en place. Travail choisi, c'est le travail que chacun pourra donc avoir, mais il faut redonner de la dignité donc à ce système et éviter donc l'assistanat. Deuxième chose en ce qui concerne l'emploi, c'est-à-dire que 100% du salaire réel va être distribué aux gens, c'est-à-dire que les gens n'auront plus 72% ou 75% c'est-à-dire que de leur salaire brut, mais ils auront 140% de leur salaire brut, c'est-à-dire les cotisations salariales et patronales donc seront intégralement virées sur le compte donc du bénéficiaire, c'est du travailleur. Donc ça va redonner donc de la vigueur donc au pouvoir d'achat et à l'emploi.
D'accord.
Les charges sociales ne seront plus transférées sur donc, le travail, mais sur la consommation et donc sur les importations aussi.
Tout à fait. On va essayer de faire un tout petit peu plus concis, par contre, sur les réponses, parce que sinon on n'aura plus d'auditeurs à la fin du podcast. Allez-y. C'est le risque sur Internet. Le temps d'audience, le temps d'écoute, d'attention est vraiment assez court. Concernant le pouvoir d'achat que vous évoquiez, l'aide aux plus démunis, la lutte contre les inégalités, vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus?
Vous savez, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement donner aux gens donc, le fruit de leur travail. Aujourd'hui, il y a 100 de salaire brut, 72 touchés réellement et 140 de coûts pour l'entreprise. Les gens, ils vont toucher 140.
Donc, vous préconisez quoi?
Le pouvoir d'achat, il va faire un bond.
Donc, concrètement, vous préconisez,
de verser le salaire intégral et de ne plus prélever les charges sociales sur la masse salariale, mais sur la consommation de tous les acteurs, les touristes qui passent, etc.
D'accord. Les différentes propositions que vous évoquez, tout ça, ont un coût. Les déficits publics, la dette de l'État explose. Quelle solution, comment on fait pour réduire cette dette?
Déjà, vous supprimez les subventions. Les entreprises ont extorqué des subventions exorbitantes au titre des 35 heures. Elles sont aujourd'hui 18 milliards d'euros dans le budget donc, de cette année. Eh bien, on les supprime d'un trait de plume parce que les entreprises ont depuis 2002 fait des gains de productivité très importants qui n'ont pas été redonnés en pouvoir d'achat aux salariés. Et donc, elles ont les moyens maintenant, donc je parle des grandes entreprises, puisque c'est elles qui touchent des subventions 35 heures, de ne plus en avoir.
Concernant
les... Ah, c'est déjà la moitié du déficit qui part. Hein.
Je vous laisse en tout cas libre de ces propos. De toute façon, ils sont amenés à être commentés. Et je serais ravi que vous les discutiez en plus en profondeur avec les internautes suite à leurs commentaires.
Bien sûr.
Concernant l'énergie, concernant la politique énergétique de la France, même si c'est peut-être pas une question qui se gère à l'échelle strictement nationale, et sur le nucléaire, quelle est votre position?
Détrompez-vous, la politique énergétique de la France, c'est une échelle nationale. Il faudra faire en sorte qu'il y ait une fiscalité incitative au fait que les gens soient autoproducteurs de leur énergie. Ça se passe par ce qu'on appelle la pile à combustible domestique, c'est développé par une entreprise que je connais bien, qui s'appelle Saint-Gobain. Vous avez le détail dans les deux bourses plus de cette semaine. C'est-à-dire que vous avez, donc je connais très bien ce sujet, et c'est-à-dire que l'habitat, c'est la moitié de la consommation énergétique en France, Et c'est-à-dire que la production, l'autoproduction, c'est-à-dire la production domestique, c'est pas du tout une utopie, et c'est une véritable solution, justement, pour donc maintenir un niveau de confort et permettre aux gens donc de ne plus avoir à importer donc des énergies fossiles qui, en plus, détruisent notre atmosphère.
Parfois, on accuse la trop grande connivence entre les politiques et les industriels. Là, il y a une claire connivence avec Saint-Gobain sur ces solutions.
Mais c'est pas une claire connivence, c'est tout simplement qu'il y a des entreprises qui développent des solutions qui sont aujourd'hui propres, intéressantes. En ce qui concerne, donc, je
parle. Ça ne répond pas à la totalité de la question sur le nucléaire, sur l'énergie.
Renault et PSA sont actuellement en train de travailler sur donc un système d'hybride diesel, qui permettrait donc d'avoir un véhicule normal, c'est-à-dire un véhicule familial, consommant moins de 3 litres au 100, entre 2,5 litres et 3 litres au 100 km. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très intéressant là aussi.
D'accord.
Et sur le nucléaire, je me permets de vous signaler que le nucléaire n'a pas été construit. C'est une décision du général de Gaulle dans les années 60, des constructions dans les années 70 et 80. C'est-à-dire qu'on assumera jusqu'à la fin donc, des vies donc, des centrales nucléaires. L'objectif n'est peut-être pas, donc, en tout cas, donc, de continuer à se construire des centrales telles qu'elles le sont actuellement.
Mais on continue enterré, le nucléaire.
Et c'est-à-dire que le nucléaire militaire français est enterré, les centrales civiles sont à l'air libre. C'est quelque chose qui est un petit peu surprenant. Donc je ne l'aurais pas fait, j'aurais été à la place donc, des gouvernants de l'époque, je ne l'aurais pas fait comme ça a été fait, donc voilà.
Et sur la dépendance énergétique au pétrole?
C'est ce que je viens de vous expliquer, mais vous m'avez dit que j'étais donc un stipendier de Saint-Gobain quand il y avait des entreprises qui étaient en train de développer justement donc des matières permettant d'avoir une indépendance énergétique vis-à-vis du pétrole. La pile à combustible, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais c'est quelque chose de très simple parce que ça utilise de l'eau. C'est-à-dire que c'est de l'hydrogène, c'est vous faire de l'énergie après dire de l'hydrogène.
D'accord, c'est quelque chose qui vous paraît être aujourd'hui possiblement développable à une grande échelle.
Si nos hommes politiques étaient autrement que l'œil dans le dernier sondage, dans le rétroviseur, s'ils faisaient un peu de prospective, ils sauraient que c'était quelque chose qui est actuellement en phase d'industrialisation.
Très bien. Mais c'est une réponse, elle a le mérite d'être précise pour le coup et de parler de solutions pragmatiques.
Je suis toujours pragmatique et précis et en plus bien informé.
Quel grand
problème. Différence justement avec des hommes politiques. Ça, la société civile, ça aide.
Vous amusez de votre temps de parole, comme eux.
Ils sont dans le rétro.
On va essayer de faire le plus vite possible. Quelle politique industrielle, quel grand projet?
Vous savez, les grands projets, c'est essentiellement justement le projet énergétique. Faire en sorte que les maisons, que les appartements, que les gens ne soient plus gaspilleurs d'eau et ne soient plus gaspilleurs d'énergie est en soi un grand projet. Je ne sais pas si vous avez l'imagination de ce que peut être le nombre de maisons et de constructions qu'il y a donc actuellement donc en France, c'est-à-dire donc environ 35 millions. La reconstruction ou l'amélioration donc de l'habitat, c'est en soi des centaines de milliers d'emplois. C'est un énorme projet donc pour ce pays.
Je suis là-dessus tout à fait d'accord. Pour le coup, sur la politique européenne, quelle position? On avance à quelle vitesse? À combien? Avec quel traité?
D'abord, un retour de souveraineté partielle, car je considère qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et donc, comme ça ne peut plus fonctionner, la Constitution donc, ayant été rejetée par le peuple français... Et j'avais personnellement voté oui et incité à voter oui, d'ailleurs minoritaire dans mon propre parti politique. Et il faut en tirer les conséquences, et les conséquences sont très simples. C'est donc on revient donc à une situation aux alentours de début des années 90, après la réunification de l'Allemagne. C'est-à-dire, je considère qu'en France, vu l'état des dettes, il faudra qu'on reprenne une certaine souveraineté monétaire.
Donc davantage
d'État-nation. On ne peut pas aujourd'hui avoir une gestion économique dans un pays de 60 et quelques millions d'habitants nul, alors que dans un pays de 7 millions d'habitants qui est la Suisse, qui est juste à côté de nous, ils ont, eux, une gestion de leur monnaie. Donc je considère qu'il faudra recréer un système de francs convertible en or, c'est-à-dire que exactement le franc germinal, qui sera échangeable, la parité sera un franc pour 10 euros, c'est-à-dire que ce sera un franc fort, qui pourra permettre d'avoir une certaine possibilité donc, d'action sur la vie économique au plan monétaire et sur donc, les liquidités, car actuellement tout le pouvoir est donné à Francfort et à des, entre guillemets, gnomes, des gens qui ne savent absolument pas ce qu'est l'économie, qui fixent les taux d'intérêt pour l'ensemble d'une zone de 300 millions d'habitants, alors que les situations locales sont très différentes les unes des autres.
Et les frontières européennes, on les ouvre, on les ferme?
Pardon?
Les frontières européennes, quelle position?
Les frontières européennes, je veux dire qu'il faut quand même savoir ce que c'est qu'un continent. Un continent, il s'arrête à Gibraltar d'un côté, il s'arrête au nord de l'Islande de l'autre côté. Et dire qu'il s'arrête donc du côté de l'Oural, dire et du
on le
Caucase.
sait tous les deux, l'Europe n'est pas simplement un projet conçu sur un ensemble géographique, ça, c'est un projet de
Vous savez, le
pacification et de
Volapük, disait
développement
le
aussi.
général de Gaulle, dire que c'était donc aussi donc un projet donc utopique. L'Europe, c'est un continent qui a vocation à s'unifier. Ils doivent pas vocation à s'unifier en s'uniformisant. L'Europe a une culture de base, qui est une culture gréco-judéo-chrétienne, et cette culture de base, c'est une sorte de logiciel commun. Ensuite, cette Europe, elle est ouverte, bien entendu, donc aux flux migratoires, parce qu'elle l'a toujours été, mais ceci dit, cette Europe a vocation à préserver son identité et sa culture, bien qu'elle n'a pas vocation à se mettre en place dans un monde asiatique, bien que et visé, donc comme l'Empire, donc le système colonialiste britannique, visait donc l'Afghanistan et l'Inde.
D'accord. On revient en France et on met un peu les mains dans le cambouis concernant la recherche et l'éducation qui sont probablement deux clés de l'avenir. Quelle position, quelle proposition concrète?
La recherche est en grande partie une affaire donc de connivence future entre les entreprises et l'université, et une plus grande autonomie des universités et notamment des droits d'entrée permettant d'avoir un budget, des bonnes bourses et des droits d'entrée dans les universités, quelque chose qui soit cohérent. Un peu comme la réforme de Sciences Po a pu le faire. En ce qui concerne, y compris donc avec l'axe en facteur des quartiers défavorisés, en ce qui concerne donc l'éducation plus en général, je veux dire qu'il faut revenir à un système de sélection par le mérite et non plus de sélection par l'argent. Nous sommes aujourd'hui avec les enfants de professeurs qui sont dans des écoles privées et les enfants de professeurs qui ont des cours particuliers et le développement d'Academia et d'autres sociétés d'aide de cours par particulier, etc. Ça, c'est inadmissible. Je suis fils d'une prof de collège, prof de mathématiques, je suis pour l'école républicaine pour toutes. Et l'école républicaine pour tous, c'est l'école, c'est-à-dire que d'avant 68, c'est-à-dire où il y a tout simplement un enseignant qui enseigne et non pas qui partage un savoir avec en disant qu'est-ce que vous voulez faire aux enfants aujourd'hui. C'est très simple, il a le savoir et il l'enseigne, il le fait apprendre. Il faut remettre en vigueur l'apprentissage et des examens permettant de sanctionner et d'orienter. Examen d'entrée en sixième, brevet, etc., etc. Donc reprendre un système d'avant 68 sans les défauts d'avant 68.
Concernant l'armée, concernant la défense, désarmement, pas de désarmement, plus de budget, moins de budget, quelle réforme?
L'armée n'a pas besoin donc de plus ou moins de budget. Elle a en budget d'équipement trop, je pense, parce qu'il y a des gaspillages. Il y a des politiques très de mise en commun qu'on doit faire avec l'Union européenne et nos partenaires de l'Union européenne. Donc nous allons donc faire en sorte que quand on veut avoir des chars d'assaut, bon, on achètera des chars allemands parce que c'est sur catalogue et c'est deux fois moins cher. En revanche, les Allemands, ils achèteront des avions français. Par exemple, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne, et là, vous faites un budget, donc les Anglais ont divisé par deux, pour le même effectif de l'armée, leur budget d'équipement dans les cinq dernières années.
D'accord, donc de toute façon, une réduction du budget des armées.
Non, c'est pas ça. Sur le budget d'équipement, je sais que vous ne m'avez pas compris, donc je termine ma réponse. Et en ce qui concerne, donc, il y aura donc, en revanche donc, une augmentation des dépenses, tout simplement parce qu'il y avait une tâche traditionnelle de l'armée qui était une sorte de creuset national. Et je pense qu'il faudra restaurer une certaine forme de service national, pas obligatoirement militaire à 100%.
On parle d'un service
un
civil,
service
c'est
national
ça
de 2 mois ou de 3 mois, avec éventuellement des périodes de réserve supplémentaires pour les volontaires.
Mais en s'appuyant sur l'armée dans le cadre de votre projet?
Bien sûr, complètement. Je considère que c'est la base sera militaire et ensuite il y aura d'autres actions civiles. Et bien que la base sera militaire, je sais que ça permettra donc de pouvoir avoir. Ce ne sera pas un service à l'ancienne. Là, on ne reviendra pas sur le système.
C'est quoi
donc,
c'est de l'aide à la personne, c'est de l'humanitaire, ça peut être du local.
Ça peut être beaucoup de choses, monsieur. Mais ceci dit, je veux dire que c'est pas non plus, l'idée n'est pas de concurrencer donc les hôpitaux ou autre chose, et de faire donc les corvées de chiottes dans les hôpitaux. C'est pas ça du tout. C'est tout simplement de permettre d'avoir un apprentissage d'une vie commune et d'une expérience en commun pour des gens qui se côtoient dans la vie mais ne se regardent pas et ne se parlent pas.
Et là, pour le coup, sur ça, vous prêchez un convaincu, puisque j'avais moi-même défendu un service que j'appelais service laïque et qui allait dans ce sens-là. C'est effectivement peut-être une nécessité, mais qu'on retrouve dans différents programmes politiques aujourd'hui, et pas simplement dans les programmes.
Je ne sais pas si on les trouve dans beaucoup de programmes politiques. Je sais très bien que je l'ai préconisé dès 1999, et il y a beaucoup de choses que vous trouvez en idées nouvelles dans les programmes politiques qui ont été puisées chez nous.
D'accord. Ça, c'est plutôt bon signe pour la démocratie dans ce cas-là. C'est qu'il y a une écoute et une curiosité, non?
Oui, enfin, ceci dit, je veux dire que j'aimerais bien que la copie soit conforme.
On en restera là sur cette question. Concernant le réchauffement climatique, la préservation de l'environnement, le développement durable...
J'ai déjà beaucoup parlé, puisque je permets quand même de vous rappeler que l'un des principaux projets industriels, et le principal projet industriel, je dirais que ce sera de l'autonomisation, je dirais que de l'énergie au plan de chaque logement, de chaque système, comme ça peut se faire déjà.
D'accord.
Et à Baden-Baden, aller en Suède, regarder les constructions nouvelles, elles sont autonomes.
Tout à fait, et c'est un point, et c'est probablement un point important. Cela dit, le réchauffement climatique, on va y arriver. Le réchauffement climatique ne se gérera pas qu'à échelle nationale. Donc, quelle solution ?
Mais faisons-le d'abord chez nous. Comme je dis, si je pisse par terre sur le tapis, ça fera donc une tâche chez moi. Faisons en sorte donc d'aller donc chacun dans son coin, donnons le bon exemple.
D'accord.
C'est bien d'attendre que les autres le fassent, c'est beaucoup mieux de commencer à le faire soi-même.
Les nouvelles taxes pour financer ce genre de mesures, ça vous paraît pertinent, c'est
en place ? Ça n'a absolument pas. Le problème, on sera beaucoup plus donc d'augmenter donc la richesse générale pour baisser justement le poids des taxes et des impôts en relatif. Créer un système qui, justement, n'incitera à rien. En revanche, sur les ordures ménagères, il est évident que ce qui se passe dans des villes comme Gand, par exemple, doit être extrapolé à l'ensemble d'un pays comme la France. C'est-à-dire, donc, paiement exclusivement à l'acte, c'est-à-dire, vous déposez une ordure, ça vous coûte.
Quelle gestion des flux d'immigration ? Et c'est peut-être lié, d'ailleurs.
Il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est l'intégration. Je me permets de vous le rappeler. Ça a été très clairement donc exprimé, et dire que il faut déjà commencer par intégrer les gens.
Notamment c'est bien mieux
donc
de
dire donc ok, vive la traite, parce que l'immigration donc illégale, ce n'est jamais que des pauvres victimes qui viennent, qui essayent, qui croient à l'Eldorado, et ce n'est pas quelque chose qui est sain. Si en plus ils ne s'intègrent pas, ce n'est pas possible.
Et en allant jusqu'à donner la nationalité à ceux présents sur le territoire?
Mais la nationalité, monsieur, c'est 5 années de présence sur le territoire. Vous faites une demande donc de nationalité, c'est aujourd'hui possible. Ne racontez pas quelque chose qui est encore dehors de la vérité, c'est déjà totalement possible.
Mais nous parlons des programmes, et il y a des programmes qui remettent en cause aujourd'hui ce type de position, et je souhaite que le vote
puisse être clair là-dessus. Il a toujours été possible de la France qu'une présence continue de 5 ans sur le territoire puisse permettre de demander un dossier de naturalisation.
Ce que vous ne remettez pas du tout en cause, donc.
Non, je ne vois pas pourquoi je le remettrais en cause.
D'accord. Concernant les institutions, le poids du Parlement, un changement peut-être, une nouvelle république.
Nous avons une réforme complète des institutions qui est dans notre programme, qu'on peut consulter sur miguet2007.fr.
C'est ma question. C'est en quelques mots, essayer d'expliquer aux internautes qui pourront aller plus loin.
C'est beaucoup trop compliqué, malheureusement. Je ne prétends pas dire en quelques mots, qui est quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'on supprime le comité économique et social, c'est-à-dire qu'on le fusionne avec le Sénat qui est réduit à 250 membres. L'Assemblée nationale, c'est 400 membres, dont 100 élus la proportionnelle à la place de 577 aujourd'hui. C'est un système donc de président qui préside le Conseil des ministres, mais qui conduit l'action aussi donc du gouvernement. C'est un système beaucoup plus présidentialiste, etc., etc. Donc c'est très complexe. C'est la fusion des intérêts, les conseillers généraux sont supprimés et les conseillers régionaux reprennent globalement toutes les compétences actuellement assumées par les départements. C'est-à-dire que c'est la fin de l'obligation ad vitam aeternam des fusions de communes par les communautés d'agglomération, etc., puisque chaque mandat, c'est-à-dire que le premier jour donc où le conseil municipal est élu, il devra réadhérer s'il le désire, à la communauté de communes ou d'agglomération. Donc c'est une cellule de base qui se rappellera la commune, une cellule régionale qui sera forte et une cellule nationale qui sera beaucoup plus simplifiée qu'elle ne l'est actuellement.
D'accord. Mon avant-dernière question est très ouverte en termes d'aménagement du territoire, d'aide au logement, à la famille et pour tout ce qui peut jouer sur l'amélioration de la qualité de vie.
Déjà, l'aide au logement, il y aura une chose révolutionnaire qui sera faite, c'est-à-dire que tous les logements sociaux actuels seront proposés à leurs locataires actuels, moyennant, s'ils s'engagent, ils auront 20% de réduction sur le prix d'évaluation des domaines, qui est toujours un prix très bas. C'est-à-dire que s'ils veulent l'avoir disponibilité à tout moment, c'est-à-dire le revendre même le lendemain, 50% de réduction s'ils s'engagent à y rester pendant plus de 5 ans, 40% pour plus de 5 ans et 50% pour plus de 10 ans. Donc ça, on va changer complètement donc le système de l'habitat par la responsabilisation des gens, c'est-à-dire le parc actuel de logements sociaux sera proposé aux locataires qui auront, via les systèmes qui ne changent pas, c'est-à-dire donc de prêt à taux zéro, etc., qui auront la possibilité, en payant un loyer inchangé, qui ne sera plus un loyer, mais des frais d'accession à la propriété, la possibilité de devenir responsable et propriétaire.
D'accord, ce sera ma dernière question dans le cadre de cette interview. Combien ça coûte, ou plus exactement, comment on finance aujourd'hui un programme de réforme tel que celui que vous présentez ?
Eh bien, c'est pas ça coûte, ça rapporte. Ça rapporte du dynamisme, ça rapporte donc une économie plus prospère, et ça rapporte à chacun donc davantage de pouvoir d'achat. Si vous avez plus de pouvoir d'achat, vous avez plus de dépenses, donc vous avez plus de recettes au titre de la TVA, par exemple.
Est-ce que vous avez un dernier mot que vous auriez souhaité rajouter dans ce laps de temps qui nous reste, quelque chose à préciser, ne serait-ce que pour donner envie aux auditeurs d'aller plus loin, de se renseigner sur qui est Nicolas Miguet, quel est son programme ?
Tout simplement, ils peuvent se renseigner sur miguet2007.com, premièrement. Bien entendu, je veux dire que je ferai donc des points de passage dans toute la France, je dis bien tous les départements de France, donc d'ici donc à avril 2007. Eh bien, sur le site internet, à chaque fois, je dis que les endroits où je ferai les dîners, les jeux, les débats seront indiqués, et je serai très heureux d'en voir. Je vais même vous signaler qu'en 2001-2002, sur la campagne 2002, j'ai rencontré à dîner, à déjeuner, débat, c'est-à-dire que plus de 10 000 personnes qui sont venues assister et parler, poser des questions en direct, et pas uniquement via donc un intermédiaire.
D'accord. Nicolas Miguet, merci beaucoup. Cet article, ce podcast sera diffusé lundi 19 mai donc sur AgoraVox, sur NewWeb et sur probablement d'autres médias. Je serai ravi et je vous invite vivement que vous reveniez donc pour pouvoir répondre aux commentaires, aux questions des internautes. J'espère que cette discussion pourra durer. C'était en tout cas l'objectif de cette interview.
Pas de problème. Merci. Au revoir, monsieur.
Merci beaucoup.